OK. Si vous voulez, on va demander au Seigneur sa bénédiction pour notre étude de ce matin. Alors, Seigneur, nous venons devant toi, à ton trône de grâce. Nous implorons ta miséricorde, ta bonté, ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Permets, Seigneur, que nos oreilles soient ouvertes, non seulement nos oreilles physiques, mais nos oreilles spirituelles également. Et permets, Seigneur, que les leçons, ce que tu veux nous enseigner à l'intérieur de ce passage-là que nous allons étudier, puisse trouver une résonance dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos corps, dans toute notre être, Seigneur, afin que nous puissions devenir meilleurs et ressembler davantage à Jésus-Christ, et tout cela pour ta plus grande gloire. Nous te le demandons en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans Genèse chapitre 1. Et on va lire les versets 3 à 31. Autrement dit, on va lire le reste du chapitre, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Aujourd'hui, on va faire l'ensemble du premier chapitre, donc de la création, mais la semaine prochaine, on va revenir sur donner plus de détails sur les jours. Les premiers jours, deuxième jour, troisième jour. Donc là, aujourd'hui, on va faire comme une vue d'ensemble et après, on va revenir pour aller un petit peu plus en détail à l'intérieur du chapitre. Alors aujourd'hui, on va commencer au verset 3, puisqu'on avait vu les versets 1 et 2 la semaine dernière. Alors, verset 3, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux vole sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le sixième jour. » Alors, j'ai intitulé tout simplement la leçon d'aujourd'hui « La création en six jours de 24 heures ». Alors, quand quelqu'un se met à étudier ou à écouter ce que certains pasteurs vont enseigner concernant la durée des jours, est-ce que c'est des jours de 24 heures, oui ou non, alors c'est en gros ce qu'on va regarder ce matin. Très important, parce que vous allez voir que si que l'on fasse un choix ou un autre, ça a toujours des conséquences. Alors, si on fait un mauvais choix, ça a des conséquences sur d'autres parties de la Bible qui sont vraies et qui disent le contraire. Alors, si la science dit une affaire et que les Écritures les contredisent, alors il faut s'habituer à prendre position pour la Bible sur la science. Pas que la science, il faut la rejeter, mais il y a beaucoup de science qui est en fait de la pseudo-science. On va regarder ça un petit peu plus loin. Alors, ce qu'on va regarder, la création de six jours de 24 heures, on va regarder un petit peu, on va faire un retour un peu sur la complexité de la création. On l'a vu un petit peu, le Seigneur a créé toutes les choses, mais on va faire un retour un petit peu sur la complexité de la création parce que ça contribue vraiment à nous émerveiller qu'il ait pu faire autant de choses avec autant de puissance sur une période si courte de temps. Ça prend une intelligence phénoménal, infini pour être capable de faire ça. Alors, on va regarder sa complexité. On va regarder aussi le fait, est-ce que c'est crédible que les jours des Écritures qui sont annoncés, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, est-ce que c'est crédible que c'est des jours de 24 heures? Notre réponse, la mienne, c'est simple. Après avoir étudié le sujet, la réponse, c'est oui, c'est des jours de 24 heures. Mais on va voir un petit peu tantôt que si on dit non, que ça a des conséquences théologiques. Autrement dit, si on dit non, on est en train de dire que d'autres parties de la Bible qui disent des choses, c'est faux. Alors, quelque part, comme chrétien, on se doit de faire passer les Écritures avant les études des hommes, aussi savantes soient-elles. Et la troisième chose, on va regarder sa conformité. Autrement dit, la conformité, c'est est-ce que notre position est conforme avec l'ensemble des Écritures? Est-ce que notre position est conforme avec la tradition chrétienne de tous les siècles qu'on a traversé, les réformateurs, par exemple, et plein d'autres mondes? Mais c'est sûr qu'on est rendu au 21e siècle et il y a des gens qui ont rejeté la doctrine de ce qu'on appelle le créationnisme, ils l'ont rejeté. Alors, quand on le rejette, bien sûr, à quelque part, il vient un paquet d'erreurs théologiques qui sont reliées à ça. C'est ce qu'on va essayer de regarder ce matin. Alors, on avait regardé dans notre leçon de la semaine passée que dès le premier verset de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On avait vu que de suite, par cette déclaration divine-là, il y avait plein d'affirmations, de systèmes philosophiques humains qui s'écroulent par la même occasion. On va les nommer l'athéisme, il n'y a pas de Dieu. L'athéiste dit qu'il n'y a pas de Dieu. Le premier verset dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Après ça, il y a le matérialisme, l'éternité de la matière. Autrement dit, la matière, selon certains non-créationnistes, des personnes qui ne croient pas au créationnisme, croient que la matière a toujours existé. Pas vrai. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, à quelque part, l'éternité de la matière, c'est faux. Il y avait aussi le polythéisme. C'est pas les dieux ou certains dieux d'Afrique, puis c'est Dieu Elohim. Alors, quelque part, c'était le Dieu trinitaire. Il y avait aussi l'évolution et le panthéisme et le fatalisme. Alors, il faut savoir que dans le verset 3, ça dit que dans le verset 2, c'est-à-dire la terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Autrement dit, les Écritures sont en train de nous préparer à nous dire comment Dieu a procédé pour amener la vie sur la terre. Si tout était informé vide, à quelque part, c'était pas prêt pour l'arrivée de l'homme. On a vu qu'au sixième jour, c'était l'homme qui était arrivé, mais à quelque part, il fallait que l'Éternel prépare, autrement dit, la voie pour l'apparition de la vie. Alors, il y avait certaines choses qui n'étaient pas encore là. La création brute était là, mais Dieu a fallu qu'il mette de l'ordre là-dedans, qu'il introduise certaines choses qui sont essentielles à la vie. Comme par exemple, la lumière. Dieu nous dit, dans le verset 3 et 4, qu'il a mis la lumière. Alors, ça disait au début que c'était ténèbres. Alors, pour vivre, si on vivrait complètement dans les ténèbres, notre santé s'en ressentirait, ça serait pas trop long. J'avais déjà vu un reportage à la télévision là-dessus. Ils ont fait des tests pour savoir combien de personnes pouvaient durer de temps à vivre dans l'absence de son et l'absence de lumière. Et ça prend pas trop de temps que les désordres mentaux s'installent. Alors, on avait besoin de la lumière. Autre chose, ça dit que c'était informe et vide. Donc, à quelque part, il y avait besoin de la notion d'ordre. Il fallait que le Seigneur établisse de l'ordre là-dedans. La création des nuages, la création des mers, la création des animaux et plein de choses qui nous est mentionnées dans le chapitre. Et une autre chose qu'il y avait besoin, c'est la vie. La vie comme telle, qui dans les versets 21, 25 et 31 nous parle que Dieu avait amené la vie. Donc, les trois choses nécessaires pour l'apparition de l'homme, c'était la lumière, l'ordre et la vie. Alors, si ça ne va pas exister, l'être humain n'aura pas pu paraître sur la terre et ça n'aura pas pu fonctionner. On avait vu aussi dans notre leçon de la semaine dernière que les hommes, à cause du fait qu'ils n'aiment pas l'idée qu'ils vont avoir un compte à rendre à Dieu, ont inventé des théories pour... voyez-vous, déjà Genèse 1:1 et Genèse 1:2 sont des versets clés pour comprendre et pour interpréter les Écritures correctement. Si on dit, par exemple, la théorie de l'intervalle, on en a parlé un peu la semaine dernière, le « gap theory », en anglais c'est « gap », autrement dit qu'entre le jour 1 et le jour 2, Satan se serait introduit, et on ne rentrera pas dans les détails de tout cela, mais autrement dit, l'idée, c'est que Dieu n'a pas créé les choses parfaitement dès le début. Après ça, il y avait la théorie des jours-époques. C'est ce qu'on va voir un petit peu plus en détail ce matin. Les jours, ce n'est pas des époques de 1000 puis de millions d'années. On va voir pour plusieurs raisons. On va les voir tantôt. Alors, après ça, il y avait la théorie de l'évolution. Celle-là, on la connaît tous parce qu'on s'est fait bombarder de ces informations-là de façon constante à la télévision, à la radio, dans le cinéma, dans les revues, à l'école. Ils commencent déjà même à l'école à t'enseigner cela. Une chose qu'on a mentionnée, c'est que je parlais avec ce matin avec... Lucie. Je parlais avec Lucie. Bien, je devrais avoir une grande facilité à me souvenir de son nom. Elle porte le même nom que mon épouse. Je parlais avec Lucie la semaine dernière. Je lui ai donné des ressources sur Internet pour les personnes qui ça cause un problème, ça. Moi, je vous conseille que si ça cause un problème, allez-y pour passer du temps là-dedans. Parce que c'est pas des choses qui sont faciles à développer. Et ça a été développé par des scientifiques chrétiens. Donc, les gens qui ont écrit sur ce site web-là sont, premièrement, première chose, sont des chrétiens. Ils croient en Dieu, ils croient en ce que Dieu dit. Et il y a une multitude de ressources. Alors, faut pas hésiter, si ça nous cause un problème, d'aller consulter. Là-dedans, il y a des livres, il y a des articles, il y a des vidéos, il y a des revues, il y a tout ce que vous voulez, possible, imaginable. Comme je disais ce matin, moi, je suis convaincu que quelqu'un qui s'installe sur ces sites web-là, qui lit tout ce qu'il y a à lire, il y en a pour 2-3 ans. Ah ouais. Il y a du stock, il y en a tellement. Alors, surtout, ne vous gênez pas. Moi, je connais des gens, je sais que c'est un problème qui existe. Il y a des chrétiens que le poids de la science, je ne dis pas que la science n'a pas de poids, elle a un poids, mais c'est parce que des fois, on ne fait pas la distinction entre la véritable science et ce qu'on pourrait appeler la pseudo-science. Et ces gens-là, ce sont des gens qui ont des doctorats en physique, en chimie, en tout ce que vous voulez, là, les sciences qui touchent la géologie, etc., qui ont étudié cela et qui se rendent compte que la théorie de l'évolution, c'est complètement faux. Alors, quelque part, si on ne se donne pas la peine, ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse écraser et on en vient à un point où on est gêné d'affirmer qu'on est des créationnistes parce qu'ils mettent tellement la pression sur vous en vous laissant croire que si vous êtes créationniste, vous êtes niaiseux, que parfois, on se laisse écraser par ce poids-là. Ne faites surtout pas ça. Il y a plein de ressources. Et c'est des ressources qui ont été développées par des chrétiens sur des décennies. Ça fait longtemps que ça marche, tout ça, là. Alors, ne vous gênez surtout pas, ceux qui ont Internet. Puis ceux qui n'ont pas Internet, vous me le direz, j'ai des livres à maison, en français, qui défendent les principaux points qui sont en litige souvent quand les chrétiens parlent de la création en six jours. Ceci étant dit, on croit, moi, personnellement, ma position personnelle, si je crois à la position de la Terre jeune, qu'on dit. Alors, c'est bien sûr, l'évolution, c'est plus des millions d'années, c'est rendu des milliards d'années. On croit que la Terre est jeune et qu'elle a entre 6000 et 10 000 ans. Ça aussi, c'est un long, long, long débat qui peut aller trouver nos réponses sur ces choses-là, sur ces sites-là, ou dans des livres. Alors, je vous dis d'avance que ceux qui ont des problèmes avec la théorie de l'évolution, qui ont laissé rentrer ça dans leur esprit, faites le ménage. Parce que je vous dis, ça a des conséquences dans toute votre vie chrétienne et dans votre compréhension théologique.
Je veux juste savoir le site que vous parlez, c'est quoi? L'adresse du site?
Ah, ben je l'ai donné, je l'ai après, j'en ai dans ma... Je te donnerai après, j'ai plein de sites. Il y en a en français, il y en a en anglais. J'ai une feuille dans ma... que je pourrais donner à ceux que ça intéresse, là, ou qu'il y a plein d'adresses, il y en a en français, il y en a en anglais, et il y a des livres aussi qui... Alors, j'avais fait, là, sur ma premier sermon que j'avais fait, j'avais donné une série de ressources, puis j'avais noté les ressources sur une feuille. Alors, ceux qui sont intéressés, vous avez juste à me le dire, je vous pourrais vous donner ces ressources-là, et je vous en prie, si vous avez des problèmes, ne restez pas avec votre problème, cherchez à augmenter votre connaissance chrétienne, pour ne pas vous laisser écraser par les affaires du monde. Alors, on a dit que le mot « jour » dans les Écritures, ce qui est bien à la mode maintenant, par certains théologiens qu'on pourrait dire libéraux, pas libéraux dans le sens du parti politique, un théologien libéral, c'est un théologien qui met en doute à peu près tout ce que la Bible affirme. C'est ça qu'on appelle un théologien libéral. Aujourd'hui, il y en a plein. Et ils vont dire que le mot « jour », ça ne veut pas dire « jour », ça veut dire une époque. Ça veut dire « millien », ça veut dire 10 000 ans, ça veut dire 1 million d'années. On va voir tantôt que ça ne tient pas debout, ce qu'ils disent. C'est important de le réaliser et de prendre notre position dès le début. Alors, on va faire une révision. On a parlé que le premier point qu'on voulait regarder... ça pose vite. Le premier point qu'on voulait regarder, c'est le côté merveilleux de la grandeur de l'univers. On aurait pu ramener ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport à l'ordinateur 10 millions à la seconde, ça prendrait tant de millions d'années. Mais je vais prendre une autre illustration pour nous rappeler la grandeur de l'univers. Et ça, j'avoue que quand on se met à y réfléchir un petit peu, on devient un petit peu étourdi. Supposons que l'épaisseur d'une feuille de papier, OK? On suit. Ça, ça équivaut à la distance entre la Terre et le Soleil. Supposons. OK? Une feuille de papier, l'épaisseur, représente la distance entre la Terre et le Soleil. En passant, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 93 millions de milles. C'est loin. Disons qu'une feuille représente 93 millions de milles. Maintenant, pour représenter la distance de la Terre à l'étoile la plus proche, on aurait besoin d'une pile de papier de 71 pieds de hauteur.
Ça fait loin.
Ça fait loin un petit peu. Ensuite, pour couvrir le diamètre de notre galaxie, par là, on parlait des étoiles, là on parle de la galaxie, c'est encore plus large, ça prendrait une pile de papier de 310 000 de haut. Chaque feuille représente 93 millions de milles. Pas fini. Pour atteindre les limites connues de l'univers, nous aurions besoin d'une pile de papier de 31 millions de milles de haut. Wow! Dieu dit, et cela fut. Ça te donne-tu une idée de la grandeur du Seigneur? Ça dit dans le psaume 147, versets 4 et 5, il parle de Dieu, là. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Moi, je suis encore relativement nouveau ici, puis je ne serais pas sûr que je sois capable de tout mettre des noms chacun de vous autres. Mais là, on parle de milliards d'étoiles. Et le Seigneur leur a donné à toutes un nom. À quelque part, c'est renversant. Maintenant, on peut s'émerveiller de l'infiniment grand, mais aussi créer l'infiniment petit. On sait, par les études de la chimie, de la biologie, que l'univers, dans sa grandeur, il est comme reproduit en petitesse. Alors, on sait, d'après les études chimiques, biologiques, que l'univers est composé d'atomes, d'électrons, de protons, de neutrons. Mais encore là, il semble que ce modèle-là soit dépassé et que la science ait découvert que tout cela, c'est beaucoup plus complexe que notre modèle avec lequel on est habitué de travailler. Juste vous donner une idée. Sur la pointe d'un stylo à billes, j'en ai pas un, mais sur la pointe d'un stylo à billes, il y a tant d'atomes que si l'on prenait la comparaison qu'un atome représente un soldat et que cette armée marcherait en rang de 4 de large, ça prendrait 20 000 années pour voir défiler toute l'armée. Le nombre d'atomes sur la pointe d'un stylo. Maintenant, dans l'infiniment petit, cela nécessiterait 25 milliards de protons pour couvrir l'espace d'un pouce linéaire. Prenez n'importe quelle matière, là, un pouce linéaire, 25 milliards de protons à l'intérieur d'un petit espace. Là-même. Il y a autant de protons dans un pouce cubique de cuivre que de gouttes d'eau dans l'océan ou de grains de sable dans tout l'univers. C'est autant on s'émerveille devant l'infiniment grand, autant on peut s'émerveiller devant l'infiniment petit. Maintenant, pour parler de l'énergie qui est contenue dans tout cela, le physicien Albert Einstein, vous avez sûrement entendu parler de son nom quelque part, dit que dans une seule goutte d'eau, il y a suffisamment d'énergie pour soulever 200 millions de tonnes d'acier à une distance d'un mille au-dessus de la Terre. Si l'énergie qu'il y a dans une goutte d'eau serait développée à son plein maximum, elle serait suffisante pour soulever 200 millions de tonnes d'acier à un mille au-dessus de la Terre. C'est puissant. Maintenant, il y a un autre physicien qui s'appelle Otto Gale. Il a calculé, lui, qu'une seule goutte de gasoline, si elle était pleinement utilisée par une automobile, serait suffisante pour faire un voyage de 400 fois le tour de la Terre, un voyage de 10 millions de milles. Si elle était pleinement utilisée, ce qui arrive, c'est que C'est, on l'utilise quand on voyage, mais c'est pas pleinement utilisé. Toute l'énergie qui est à l'intérieur d'une seule goutte de gasoline serait suffisante pour faire un voyage de 10 millions de milles, donc 400 fois le tour de la Terre. Il y a de l'énergie là-dedans, c'est incroyable. Alors bien sûr, on pourrait parler de plein d'autres choses, je ne rentrerai pas là-dedans ce matin, mais je l'avais dans mes notes. On pourrait parler des quasars, vous avez déjà entendu parler de ça des fois, les quasars, les supernovas, les étoiles à neutrons, les trous noirs, et tout cela, on pourrait développer, j'ai plein de notes là-dessus, mais on ne rentre pas là-dedans. Dans le fond, c'est pour démontrer que tout cela, c'est d'une complexité infini. C'est vraiment, on voit que c'est une œuvre divine. Maintenant, je vais vous poser la question. Un être humain, il y a combien de milliards de cellules dans un être humain? 75 000 milliards de cellules dans un seul être humain. Il a été démontré que chaque cellule individuelle est plus sophistiquée que l'ordinateur le plus puissant sur la Terre. Chaque cellule, il y en a 75 000 milliards dans l'être humain, chaque cellule est composée, est faite de façon à ce qu'elle est plus sophistiquée que l'ordinateur le plus puissant de la Terre. Chaque cellule contient 200 000 milliards d'atomes. Quelque part, quand on rentre là-dedans, là, on vient étourdi, c'est pas trop long, mais les chiffres sont impressionnants. Autrement dit, c'est un micro-univers. Autant l'univers est grand en haut, autant l'univers est petit en bas, mais avec, organisé avec autant de complexité, d'intelligence et de sagesse. Dans le psaume 19, on dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Maintenant, on parlait de tantôt de crédibilité, comme notre deuxième point. Le dictionnaire définit la crédibilité comme étant le caractère de ce qui est croyable, de ce qui est vraisemblable. Le Seigneur nous dit dans Jean 17, dans le verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Si on croit la parole, à partir du premier mot de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse, on va être sanctifié. Séparés du mal. Parce que le mal, c'est pas toujours nécessairement du mal des gens qui se font mal les uns aux autres. C'est ce qui rentre dans notre caboche et qui n'est pas correct avec ce que Dieu dit. Ça aussi, c'est mal. Alors, il est d'une importance capitale pour le chrétien de placer son entière confiance dans la parole de Dieu. Ça prend du temps avant de faire ça. Je l'avoue, bien humblement. Là. Ça prend du temps avant d'ouvrir la parole. Puis quand on l'ouvre, de sentir que c'est le Dieu qui a créé tout ce qu'on vient de parler, là, qui nous parle à nous personnellement. On ne s'arrête pas souvent à ça. Dieu nous a donné un trésor. Il faut le considérer comme un trésor. Il faut que chaque fois qu'on l'ouvre, avant de l'étudier, de la lire, de la mémoriser, de la méditer ou quoi que ce soit, prendre conscience, s'arrêter que Dieu lui-même, dans toute sa grandeur infinie, nous parle à nous personnellement. J'avoue que très souvent, j'ai ouvert les Écritures, je n'avais pas cette attitude-là. Probablement que vous autres, ce n'est pas la même chose. Des fois, on lit ça et on n'est pas assez conscient que Dieu nous parle à travers de tout cela. Maintenant, est-ce que c'est important de croire à la création de 6 jours de 24 heures? La réponse, c'est un gros oui majuscule, bien gros. Si on n'y croit pas, qu'est-ce que ça fait? On va vous donner quelques conséquences. La première, c'est que ça dégrade l'attribut de la bonté de Dieu. Voyez-vous, dans le verset 31, ça dit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, un matin, ce fut le sixième jour. » Tout ce qu'il avait fait était très bon. Tout ce qu'il avait fait était très bon. Alors, si on est en train de dire que la mort a existé avant la chute de l'homme, on est en train de dire que Dieu a créé quelque chose dont la mort existait même avant que l'homme chute. La mort a été introduite sur la terre à cause de la chute de l'homme. La théorie de l'évolution, ça dit que la mort existait avant que l'homme chute. Parce que disait... c'était des animaux, donc un animal mourait, un autre animal, il y a eu une évolution selon eux, et tout cela, c'est en train de dire que la mort est entrée dans la création avant la chute. Ça, c'est une contradiction phénoménale sur ce que la Bible dit. Alors, on a toujours des choix à faire. On lit, on prend conscience de quelque chose, et c'est à nous à faire des choix. Ou on croit ce que les hommes disent, ou on croit ce que Dieu dit. Puis quand on commence à croire ce que Dieu dit, il y a beaucoup d'erreurs qui se résolvent par eux-mêmes. Voyez-vous, c'est la chute d'Adam qui a emmené le péché et la mort dans le monde. Pas avant. Parce que ça dit dans Genèse 3, versets 16 et 17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Tu mourras. Ça dégrade aussi l'Évangile, pour une bonne raison. Donc, ça dégrade l'attribut de la bonté de Dieu. Deuxième chose, ça dégrade l'Évangile. Comment je peux démontrer ce que je viens de dire là? Bien, c'est en allant dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, les versets 21 et 22. Ça dit, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » L'Évangile est construit là-dessus. L'homme a péché et a chuté avec Adam. Tous les hommes qui étaient en lui ont chuté en même temps. Pour ça que quand on vient au monde, même si on n'était pas là au début, même nous, on n'a pas pris le fruit, mais on était en Adam, dans Romains, chapitre 5, versets 12 à 21, qui nous dit qu'on était en Adam. On était responsable même si on n'était pas là. Ça, c'est une notion assez difficile à saisir, mais c'est là quand même vrai. On va les lire, les Romains, Romains 5, versets 12 à 21. Ça dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » C'est en train de dire que la mort existait avant la chute. C'est un très grave problème théologique. Ou tu crois ce que Dieu dit, ou ce que tu crois ce que les hommes disent. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. Parce que tous ont péché. On était en Adam, à quelque part, et quand Adam a péché, on péchait en lui. Vous allez me dire, explique-moi ça théologiquement. Je vais vous dire, il y a plein de livres qui ont essayé, et ce n'est pas quelque chose de facile à expliquer. Je vous le dis. Verset 13, « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Voyez-vous, toute l'affirmation biblique du salut dit « On est tombé en Adam et on a hérité du péché en Adam. » Et de la même manière que tout est rentré et a créé problème à cause d'un homme, de la même manière, on va retrouver la grâce, on va retrouver la vie en un homme, homme-Dieu, Jésus-Christ. Alors, tout l'Évangile, ça dégrade l'Évangile si tu dis le contraire. Alors, verset 16, « Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, c'est par une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. » Verset 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Alors, voyez-vous, l'Évangile dépend de notre compréhension du premier homme, du premier Adam, J'avais sûrement déjà lu dans les Écritures que Jésus-Christ est le second Adam. Alors, le premier Adam, le second Adam, tout l'Évangile est centré là-dessus. Alors, si c'est pas vrai qu'il y a eu un seul homme, mais qu'on est tombé à cause de seul homme, de cet homme-là, si on croit que, bon, il y a eu des grenouilles, puis après ça, ça est devenu un je sais pas, un quoi, là, et ça a grossi jusqu'à devenir un homme, à quelque part, on est en train de nier le premier homme, la création du premier homme par Dieu. Alors, non seulement ça dégrade la bonté de Dieu, mais ça dégrade également l'Évangile. Maintenant, il y a ça, mais il y a aussi les Écritures. Pas les Écritures, mais l'histoire. Au cours de l'histoire de l'Église, quand vous prenez... On a fait ça à Rouyn-Noranda, maintenant on a étudié toute l'histoire de l'Église à partir du début jusqu'à... Ça a pris un an et demi, c'est pas deux ans. Une leçon par semaine. C'est très intéressant parce que on se rend compte comment les hommes ont compris les Écritures à travers les siècles. Et une chose qui est importante, c'est si on regarde historiquement comment les chrétiens ont interprété le jour, les jours, les six jours qui sont mentionnés dans les Écritures, c'est quoi notre réponse? L'unanimité. Basile le Grand, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, les réformateurs, Jean Calvin, Martin Luther, ont traditionnellement interprété les jours de la création comme étant des jours de 24 heures. Et après la réforme. Historiquement, là, dans un bloc, on pourrait dire que les chrétiens ont interprété les jours de la création comme étant des jours littéraux de 24 heures. À partir du fin du 19e, début du 20e, là, toute la question de l'évolution a commencé à se développer, à s'introduire dans les écoles, dans le système éducatif, etc. Et depuis ce temps-là, ça a fait énormément de chemin. Aujourd'hui, quelqu'un qui se dit créationniste, il passe pour un insignifiant. Allez dire ça dans une université, vous allez vous faire tirer des tomates. Mais il reste que ça ne change rien qu'il t'a envoyé des tomates ou non. C'est-tu la vérité ou c'est pas la vérité? Parce que les hommes n'aiment pas l'idée qu'un jour, ils vont avoir des comptes à rendre à Dieu. Maintenant, pourquoi on se doit de dire que les jours doivent être des jours de 24 heures? Alors, ça dit, Moïse le crut, Exode 20. Ça, c'est Exode 20, c'est quel chapitre, ça? Le Décalogue. C'est le Décalogue, les 10 commandements, Exode 20. Verset 11. 46 jours, ça, c'est Moïse qui parle. Il dit, « 46 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. » Quand il parle du septième jour, il parle-tu d'une époque ou s'il parle de 24 heures? Il parle de 24 heures. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. S'il est en train de dire dans la même phrase, « 46 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, ce qui est contenu, il s'est reposé le septième jour, et on comprend le septième jour comme étant une journée de 24 heures. Pourquoi les jours dont il vient de parler quelques mots avant, ce pas encore des jours de 24 heures? Après ça, Exode 31, verset 17, « Ce sera entre toi, entre moi et les enfants d'Israël, un signe qui devra durer à perpétuité, car en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. » Maintenant, on va dire, OK, là, toute l'ostination de ça, quand on rentre un petit peu dans les détails de ça, on rentre dans les détails des érudits de la langue hébreu. Et là, moi, j'avoue que c'est pas mon bag, comme on dit, c'est pas ma tasse de thé. Je vais étudier un petit peu l'hébreu, mais très peu. Je me considère loin d'être un érudit. Cependant, il y a des gens que cette question-là, est-ce que c'est des jours de 24 heures ou si c'est des jours-époques qu'on appelle? Autrement dit, une journée, c'est 10 000 ans ou 100 000 ans ou 1 million d'années, etc. Alors, il y en a qui ont posé la question à des érudits, des connaisseurs de la langue hébreu dans les universités. Oxford, c'est ce qu'il y a de mieux. Cambridge, Londres, Harvard, Columbia, Toronto, McGill et des universités du Manitoba. Voici la question qu'ils leur ont posée. Considérez-vous que le mot hébreu « yom », le mot hébreu pour traduire « jour » dans les, c'est « yom », que le mot « yom » tel qu'utilisé dans le premier chapitre de la Genèse est accompagné d'un adjectif numéral, premier jour, deuxième jour. L'adjectif numéral, c'est premier, deuxième, troisième, aller jusqu'à... Ça devrait être traduit, là, il leur a donné des choix. Premier choix, un jour, tel que compris ordinairement. Deuxième choix, une époque. Ou troisième choix, un jour ou une époque sans distinction. Ça peut vouloir dire les deux, autrement dit. Sept de ces universités répondirent que le mot « yom » devrait être traduit par « jour », tel que compris ordinaire. Et là, on parle de connaisseurs en hébreu. Il y a eu un paquet de théologiens, donc je pourrais vous nommer les noms, vous étourdir avec des noms que vous connaissez peut-être pas, puis que vous n'avez pas besoin nécessairement de connaître. Edward Young, Benjamin Warfield, et plein d'autres, je pourrais vous donner des noms, j'en ai une liste de noms. Autrement dit, tout cela a été étudié par une multitude d'hommes qui connaissent la langue hébreu et ils disent tout à la conclusion que ça devrait être traduit jour, tel qu'on le comprend ordinairement un jour d'une durée de 24 heures. Maintenant, voici les problèmes. Il y a des généalogies dans Genèse 9 et dans Genèse 11. Les généalogies, ça veut dire que des fils de, fils de, fils de, fils de. Si la théorie de l'évolution est correcte et que les hommes existeraient depuis des millions d'années, il s'ensuivrait qu'il faudrait qu'il y ait un intervalle de 50 000 années entre chaque nom de ces deux chapitres. Il dit fils de, puis l'autre, il dit qu'il y a eu 50 000 années en chaque. Mon fils, normalement, ça ne prend pas 50 000 ans avant que tu l'aies, là. De plus, si la vie elle-même existerait depuis plus de 5 milliards d'années, selon leur dire, chaque jour de Genèse 1 devrait avoir duré approximativement 700 millions d'années. Le livre de la Genèse n'est pas de la poésie, mais de l'histoire. Alors, l'usage du mot « yom » dans les Écritures est utilisé plus de 410 fois en dehors de la Genèse. Et chaque fois, il signifie toujours un jour de 24 heures. Pourquoi ce serait différent dans Genèse? Parce qu'ils ne veulent pas ça. Ils veulent que nous faire rentrer dans le coco leur théorie de l'évolution. Notre modèle de la semaine de séjour vient du concept des Écritures, Exode 20, chapitre, verset 11, qu'on a lu tout à l'heure, « Avant six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour. » Maintenant, est-ce que, on parlait de conformité, notre dernier point. Si quelque chose est vrai dans les Écritures, il faut que ça soit vrai avec l'ensemble de tout ce qui est enseigné dans d'autres doctrines. Sans ça, les Écritures ne se tiennent pas. Alors, la généalogie du livre de Luc remonte jusqu'à Adam. Luc 3, verset 38, qui dit « Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. » Est-ce qu'il y a des milliers d'espèces qui ont eu entre les deux? Donc, la réalité historique d'Adam, faut que ça marche si on dit que c'est des jours de 24 heures. La doctrine des choses de la fin et de la restauration. Pourquoi le Seigneur voudrait-il restaurer, mettre une terre nouvelle, si tout était, tout s'en allait vers le mieux, comme eux disent. 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œufs qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Maintenant, avec l'ensemble des Écritures, mais aussi avec les enseignements de Jésus-Christ lui-même. Il faut que ça corresponde. Alors, avec l'enseignement de Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ croit à l'historicité de la Genèse. Dans Matthieu 24, et versets 38 et 39, il nous dit « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 19, verset 4. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? » Une herméneutique. Quand on parle d'une herméneutique, c'est une interprétation de la Bible qui est cohérente, qui est conséquente. Si vous voulez avoir une interprétation, une herméneutique qui est cohérente et conséquente, il faut que les jours de la création soient des jours de 24 heures. Comment pourrions-nous avoir une interprétation de la Bible qui soit cohérente et conséquente sans donner foi à l'historicité du livre de la Genèse? Comment croire à l'historicité de l'Exode? Comment croire à la déportation à Babylone si nous gardons la même herméneutique que les ennemis du créationnisme de la Terre jeune et des six jours de 24 heures de la création utilisent? La porte est alors ouverte aux allégorisations. Prendre n'importe quoi qu'il y a dans les Écritures et en faire des symboles qui sont complètement déconnectés avec la réalité. Alors, si tu adoptes ça, tu es sûr que tu rouvres la porte aux allégorisations fantaisistes et dangereuses. Pour nous, il ne faut pas que la science devienne le 67e livre des Écritures qui a préséance sur les 66 autres, voyez-vous? Il faut que notre compréhension des Écritures soit solide dès le début, pour qu'on ne laisse pas la science ou la pseudo-science venir contredire ce que les Écritures disent. Alors, on a des applications qu'on peut faire à partir de notre étude de ce matin. Émerveillons-nous devant la grandeur et la complexité de l'univers et de la vie créée par Dieu. Ces merveilles créationnelles se révèlent abondamment dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, dans l'énergie de l'univers et dans son mystère. Deuxième application, soyons conscients des choix que nous devons faire et leurs conséquences. Donner toujours priorité à la Bible sur la science. Tenir compte aussi de la compréhension historique des chrétiens sur la Genèse. Et aussi les implications théologiques et les graves erreurs que vous allez laisser introduire dans votre esprit amenées par l'évolution. OK. Donc, soyons conscients des choix que nous devons faire et leurs conséquences. Troisièmement, tenons compte de l'harmonie nécessaire du créationnisme avec les autres doctrines des Écritures, des enseignements de Jésus, des enseignements de Paul, ainsi que l'égarement que risque de nous amener des fausses interprétations. Que notre grand Dieu soit béni, loué et adoré éternellement.